Rappelez-vous, il y a deux épisodes dans cette fête. Il y a d'abord l'entrée triomphale à Jérusalem du Christ, et il y a dans l'Évangile, il y a immédiatement après Jésus qui chasse les vendeurs du temple. Que représente la fête d'aujourd'hui? Le Christ est Dieu et homme. Tout ce qu'il fait, il le fait non pas uniquement en tant qu'homme, non pas simplement sur le plan historique, mais il le fait au plan universel, au plan supra-historique, au plan du royaume des cieux. Et en venant triomphalement dans le temple de Jérusalem, il manifeste par là qu'il est véritablement le roi d'Israël. Le Messie qui était attendu, c'est vraiment lui qui vient. D'ailleurs, qui arrive. D'ailleurs, le peuple, à ce moment-là, ne s'y trompe pas. Il dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Simplement, de fait, il a été rejeté. Le même peuple qui l'acclame aujourd'hui, après-demain, dans 6 jours, va se moquer de lui, et les grands prêtres et les pharisiens en tête vont le crucifier, tout le monde va se détourner. Si bien que par cette action-là, en entrant dans le temple, non seulement il montre qu'il est le véritable roi d'Israël, celui qui était attendu, mais il montre aussi que son royaume est un autre royaume, qui n'est pas venu pour ce messianisme temporel que tout le monde attendait, c'est-à-dire pour restaurer la royauté et la gloire du peuple, la gloire historique du peuple d'Israël, mais il vient pour inaugurer un autre royaume. Et entrant dans le temple, d'où finalement il va être exclu, par les grands prêtres, il montre que le véritable temple, c'est pas celui que Hérode a construit, le temple de pierre, mais que c'est lui, c'est son corps qui est le temple, le véritable temple. Et dans cette fête, nous voyons le passage entre la synagogue et l'église. Synagogue et église, c'est exactement la même signification, ça veut dire assemblée. La synagogue, c'était l'assemblée des juifs qui se réunissaient pour prier. La synagogue, en excluant le temple, c'est-à-dire en excluant le Christ, le corps de Christ, en excluant le Christ, renonce à son assemblée. Et en même temps, le Christ, lui, rejeté de ce même temple qu'il a annoncé qu'en 3 jours il pourrait être détruit et qu'il rebâtirait, il le rebâtit justement en constituant par ce qu'il va faire dans quelques jours la Sainte Cène, en prenant le pain et le vin et en nous l'offrant comme étant réellement son corps et son sang, il va constituer de cette manière-là une nouvelle entité, un nouveau temple qu'est l'Église. Ce nouveau temple qui est son corps, bien sûr, comme je viens le dire, ce corps-là n'est pas simplement la personne de Jésus, mais la personne de Jésus et tous ceux qui sont ses disciples. Tous ceux qui sont unis à lui par les sacrements et par la prière. Et c'est comme ça que la synagogue est morte maintenant et vit l'Église, l'assemblée des chrétiens, l'assemblée du corps du Christ. Mais en entrant dans le temple, il chasse aussi les vendeurs, les étals, le, les, les échangeurs de monnaie, les banquiers, les magasins où on pouvait vendre des colombes, des animaux, des animaux à sacrifier. Tout ça, il le chasse. Parce que dans la nouvelle Église, enfin, il n'y a pas de nouvelle Église dans l'Église. Dans ce qui succède à la synagogue, il n'y a pas de place pour les choses du monde. Et ceci nous montre que dans le corps du Christ, si on veut être fidèle au corps du Christ, il faut résolument chasser tout ce qui s'oppose à ce que ce corps du Christ soit vraiment une maison de prière, la demeure de Dieu. Et c'est ceci qui, je ne peux pas dire justifie, c'est ceci qui s'applique avec notre conversion. Conversion qui consiste non seulement à nous mettre à croire ou à croire plus profondément dans les vérités qui sont enseignées traditionnellement dans l'Église, mais à chasser tout ce qui dans notre cœur, tout ce qui dans notre âme prend la place du Christ et l'empêche de se développer. Cet épisode d'expulsion des marchands du temple implique que nous-mêmes nous chassions de notre âme, c'est-à-dire du corps du Christ, que nous chassions tout ce qui est marchandage, tout ce qui est d'intérêt humain. Il faut s'orienter à ne vivre, et ne croyez pas que ce soit des paroles d'un vieux ou quelqu'un de mandaté par l'Église pour imposer quelque chose, pas une marotte non plus, mais il faut prendre conscience que la seule chose qui soit nécessaire réellement, c'est la vie en Dieu. Donc, il faut d'abord travailler à chasser, ce qui ne peut se faire qu'avec la grâce de l'Esprit-Saint aussi, pas uniquement par nos propres forces, mais chasser en nous tout ce qui peut être passionnel, mais aussi tout ce qui est peut-être intérêt pour le monde. Je ne vous dis pas de ne pas chercher à avoir de pas être cultivé, voilà, ce n'est pas de cet ordre-là, mais que nos priorités soient vraiment pour la communion consciente et aussi perpétuelle que possible avec le Christ. Faites des collections de timbres, faites des voyages, construisez-vous une belle maison, faites ça, tout ça si vous voulez, mais ça ne sert à rien. C'est rien. Tout ça, c'est appelé à disparaître et nous devons le faire disparaître. Je ne vous dis pas de poser une bombe dans vos maisons si vous les estimez trop belles. Mais ne nous attachons pas à ça. Attachons-nous à la découverte de Dieu, à la connaissance de Dieu. Il n'y a que ça qui soit éternel. Notre vie, elle dure sur terre pas très très longtemps. C'est toute une vie, d'accord ? Donc ça nous paraît long. Encore que plus on avance, plus ça nous paraît court. Enfin, bon. Mais qu'est-ce que c'est qu'une vie d'homme ? C'est rien du tout par rapport à la vraie vie, par rapport à l'éternité dans laquelle nous vivons. Donc c'est cette éternité-là, pas simplement en tant qu'éternité, mais en tant que vie divine qu'il faut apprendre, qu'il faut tendre à acquérir et à approfondir. La fête d'aujourd'hui, c'est ça. Après, les jours qui vont succéder de la semaine sainte, c'est après cette purification à laquelle nous sommes appelés, c'est la conscience de la manière et de l'exemple que le Seigneur nous a donné en ne participant pas, parce qu'il en a été, par sa volonté, mais aussi parce qu'il en a été exclu, ne participant pas à la vie du monde, en s'investissant pas dans la vie du monde, dans la politique notamment, mais pas seulement. Le Seigneur nous ouvre la voie d'une autre vie, d'un autre royaume. Et bon gré, enfin j'allais dire bon gré malgré, ça doit être bon gré évidemment, mais si nous voulons vivre, il est indispensable d'ouvrir cette porte du royaume, d'entrer par cette porte du royaume. Et la porte du royaume, c'est le Christ lui-même qui dit « Je suis la porte qui entrera par moi, sera sauvé ». Et entrer par la porte, ça veut dire se laisser investir par la vie du Christ, par la personne du Christ, en vivant consciemment, si possible chaque seconde de notre vie, avec le Christ. Et ça, c'est relativement pas difficile. C'est difficile parce que notre égoïsme va à l'encontre de cela, et il est fort. Mais c'est relativement pas difficile. C'est-à-dire que, en tendant, en essayant de chasser nos passions, de chasser toutes nos idées impures, et quand je parle d'idées impures, c'est des idées qui ne sont pas selon Dieu, en essayant de concentrer notre pensée, notre souvenir sur Dieu, en ramenant tout à Dieu. Petit à petit, Dieu, de cette manière, petit à petit, on lui fait de la place. Petit à petit, il peut se trouver, si c'est une image, mais plus à l'aise en nous. Nous apprenons quelque chose sur quelqu'un. Soit un malheur, soit une joie, confions-le immédiatement à Dieu. D'une manière, ce n'est pas simplement un sentiment de plaisir ou de déplaisir à l'écoute de cette, à l'annonce de cette nouvelle. Vous faites tomber un verre et vous le cassez, plutôt que vous fâchez, offrez ça à Dieu, même si vous savez que vous avez des conséquences parce que c'était un souvenir de votre arrière-grand-maman que vous êtes en train de perdre, ou alors que vous allez avoir les semonces de... de celui qui en est responsable ou qui y est attaché, ou de son supérieur, etc. Vous ramassez quelque chose par terre, en ramassant quelque chose par terre, humiliez-vous. Le fait de vous abaisser pour ramasser un caillou pensez que vous vous humiliez devant Dieu et rendez grâce à Dieu plutôt que de dire « Oh, mais qu'est-ce que ça fiche encore là ?» etc., etc., etc. Vous voyez, je prends ces petits détails-là parce qu'ils nous passent la plupart du temps inaperçus, mais c'est comme ça qu'on fait entrer le Christ dans notre vie. Aussi par des choses apparemment plus nobles, comme la prière, comme le jeûne, comme le carême que vous avez vécu, comme tout ce qui fait notre vie chrétienne, si vous voulez. Mais cette vie chrétienne doit entrer dans nos mœurs, doit se transformer, doit se transfigurer par une conscience de notre présence en Christ et du Christ en nous. La prière, c'est ça. La prière, c'est cela. La prière, c'est se mettre devant Dieu, avec ou sans parole, avec les paroles qui vous aident, non pas à vous concentrer, mais à vous tourner vers lui, et à nous remettre totalement dans ça. Que ta volonté soit faite. Le Notre Père est non seulement la prière que Jésus lui-même nous a apprise, mais est le résumé de l'attitude à avoir. C'est pas simplement une formule à exprimer le plus souvent possible, c'est tout un état d'esprit à acquérir, rendre grâce à Dieu, lui demander notre pain super substantiel, c'est-à-dire la vie éternelle, de lui dire que son règne vienne. De quel règne? C'est pas notre bonheur sur terre, c'est le royaume des cieux, etc., etc. C'est tout cet esprit-là qu'il faut accueillir. Et les événements de la vie, ce par quoi Dieu permet que nous passions, que nous le ressentions agréablement ou désagréablement, nous aide à acquérir ou à parvenir à cela. Vous aimez ceux qui vous entourent, vous aimez les membres de votre famille, rassurez-vous, ils vont tous disparaître les uns après les autres. Vous allez apprendre à vous passer d'eux, vous allez apprendre à rester en communion avec eux alors que vous ne les voyez plus pendant des années. C'est inéluctable. Vous vous êtes passé pour la plupart par une maladie, vous en aurez d'autres. Et cette maladie-là, ces maladies-là, sont ou l'occasion de nous rebeller et de vouloir absolument guérir à tout craindre, ou au contraire, de nous remettre selon la volonté de Dieu. Toute notre vie, c'est apprendre à vivre déjà dans le royaume des cieux. Et ne prenons pas ça comme un idéal impossible à acquérir. C'est une tension. Personne, enfin, rares sont ceux qui arrivent à la perfection. Mais il faut tendre à ça. Il faut avancer sur ce chemin-là. Jésus nous dit, je suis la porte, mais nous aussi, je suis la voie. C'est-à-dire, en entrant en lui, en communiant à lui, pas simplement par la communion grise, mais par la communion consciente, on avance dans ce chemin-là. Et après, c'est le travail de l'Esprit-Saint de rythmer cette avance, ce progrès. C'est l'Esprit-Saint qui, sans forcément une commune mesure, mais qui avec l'ouverture qu'on lui fait dans notre cœur par notre essai de conversion, vient faire fructifier cette conversion et nous fait avancer au rythme que Dieu estime qu'il est bon que nous avancions. C'est comme ça que vous avez des saints personnages qui déjà à 10 ans connaissaient une quasi-perfection. Et d'autres qui, je ne mets pas d'âge parce que sans quoi tout le monde se trouve révisé, et d'autres qui mettent des années, des années, des années, toute une vie, à avancer un tout petit peu. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Cet avancement, cette rapidité, ces rythmes d'avancement ne sont pas déterminés par notre volonté, sont déterminés par la volonté de Dieu. De quoi nous soucier? De quoi avoir peur? La seule chose qui puisse nous faire peur, c'est de reculer ou de ne pas nous ouvrir à sa grâce, de ne pas porter les rameaux, de ne pas lui offrir ce que nous avons à lui offrir pour le garder pour nous-mêmes. Réaliser cela, vous verrez, c'est fondamental pour la semaine que nous allons vivre, pour la grande semaine que nous vivons tous les ans, mais que nous vivons tous les jours, mais qu'on solennise en ce moment.